Bonsoir à tous. Alors on va continuer notre pérégrination au fil de 6 séances qu'on a organisées de telle sorte qu'on puisse traiter la question des limites sur le thème de cette année de divers abords à partir de divers points de vue en psychologie d'orientation psychanalytique, donc à partir de concepts essentiellement psychanalytiques. Chaque fois, il vous échappera pas qu'il y aura toujours le discutant de la fois d'avant qui sera l'intervenant de la fois d'après. Dans le processus, ça permet de. On a pensé que ça pouvait être intéressant pour filer un lien au fil des interventions. Alors, après la petite biographie de la pulsion que nous a présentée Mathieu Garraud la semaine dernière, moi je vais passer du côté de la question de la limite entre corps et psyché par rapport à la psychosomatique. Alors ce sera une introduction à la psychosomatique, dans le sens où c'est un domaine très vaste, très large, qui s'est développé depuis le début du siècle dernier et qui a pris beaucoup de courants différents et un essor assez important. Alors je vais essayer de vous faire un panel général de d'où c'est parti et jusqu'où ça va. Où est-ce qu'on en est arrivé actuellement dans la conceptualisation et la pratique clinique. Je vais procéder en trois parties. La première, ce sera une introduction à la question de qu'est-ce qui est psychosomatique, qu'est-ce que le psychosomatique, qu'est-ce qu'on entend par là. Ensuite, je repartirai de Freud et un peu avant pour décliner d'où sont partis les somaticiens pour essayer de penser cette question-là. Et puis, je terminerai par les modèles actuels pour vous donner une approche de ce que c'est devenu et de la façon très dynamique dont ça s'est pensé actuellement par divers auteurs et par diverses écoles. Alors, je vais partir du petit bazar. J'ai trouvé cette diapo intéressante parce que la première question, c'est qu'est-ce que la psychosomatique actuellement ? Qu'est-ce qu'on entend par là ? Domaine très large, peut-être un terme un peu galvaudé. Alors, on pourrait dire de façon très schématique, comme ça, on entend beaucoup, ça doit être nerveux, psychosomatique, c'est quelque chose de nerveux, soit c'est dans la tête, ou quand on comprend pas un symptôme, on va dire, c'est psychosomatique, mais de façon à éluder la question, parce que ça renvoie peut-être à de l'incompréhensible, un illogisme ou une logique qui échappe totalement, ou alors c'est pas digne d'intérêt, ou alors, ça concerne un champ particulier, spécifique, une thérapeutique qui pourrait être adéquate. Actuellement, on a un milieu ambiant depuis une dizaine d'années où les questions du corps et de la psyché ont mené à beaucoup de mélanges, beaucoup de peut-être de confusion aussi. D'abord avec des notions anciennes venu de ce que pouvaient être les rebouteux ou des gens qui traitaient la question du corps avec des pratiques un peu variées qui ne concernent pas la médecine directement. Ça s'est beaucoup mélangé avec d'autres traditions, comme des traditions qui viennent de Chine, du côté de la médecine chinoise, avec une symbolique du corps. Et beaucoup d'auteurs actuels, notamment en France, ont fait un peu leur pain blanc de ces mélanges, de un peu cette génération New Age qui est arrivée. Qui a un intérêt, c'est d'avoir familiarisé la question, de l'avoir mis dans toutes les têtes, dans la plupart des esprits, mais en même temps de faire un certain nombre de raccourcis, de confusions qui sont certainement défavorables à penser cette question-là. Avec l'idée qu'il y a vraiment des amalgames qui sont faits trop rapidement. Alors, c'est pas parti de n'importe où. Donc en 1900, dans le contexte où Freud a commencé à élaborer ses théories analytiques, il y avait déjà des analystes et des psychologues qui se sont penchés aussi sur la question. Et il y en a eu deux, notamment un qui s'appelle Garma dans les années 50, donc il a un peu après Freud. Et puis Grodek, qui lui était un contemporain de Freud, donc vous avez son portrait juste derrière. Ils ont abordé la question avec une idée moniste qu'il y avait une identité de la psyché et du soma et du corps, avec une forme de quelque chose de global. Alors, pour le premier, pour Garma, un peu après Grodeck, l'idée c'était que le corps représente directement par les symptômes corporels, était directement associé au langage, c'est-à-dire à des expressions qu'on peut avoir dans le langage, notamment, comme exemple, un mal de dos, c'est on porte trop. Voilà, alors c'est parce qu'on porte trop de charge, donc il faut chercher dans sa vie où est-ce qu'on porte beaucoup trop. Un problème à la gorge, c'est parce qu'on n'arrive pas à parler. C'est une réduction du corps à quelque chose davantage du côté du symbolique et du langage, et qui ne fait pas la distinction entre un symptôme qui serait de la gravité du symptôme. Que quelqu'un ait une extinction de voix ou un cancer de la gorge, ou quels que soient les problèmes, c'est trop généralisant. La dimension inverse, c'est celle que Grodeck a abordée, c'est de dire que tout serait du côté du corps, tout serait du côté du ça, et que tout serait pulsionnel. Le langage n'est qu'une extrapolation, les symptômes se déplaceraient, on pourrait avoir une équivalence entre un symptôme somatique avéré, un symptôme fonctionnel, notamment par exemple une paralysie, ou un conflit qui vient empêcher de parler. Voilà. Il y a une équivalence entre ne plus pouvoir parler parce qu'on est inhibé, avoir une maladie, une bronchite par exemple, ou avoir une extinction de voix toute simple. Il y a quelque chose qui est très général et où le moi, du côté psychique, n'a pas de limite et s'étend, et le corporel et le moi sont confondus. Alors, les deux n'avaient pas tout à fait tort sur ce principe d'identité corps-psyché, parce qu'ils ont amené des premières mouvances, des premières tendances. Mais après, c'est beaucoup trop large par rapport à la complexité de la chose. Les biais que ça amène, c'est une simplification, des confusions, une causalité notamment unifactorielle, c'est-à-dire qu'on ne différencie pas ce qui pourrait être des facteurs du côté du corps, de l'environnement et des facteurs psychiques, une causalité unidirectionnelle, soit c'est le corps qui rend malade le psychisme, ou tout est corps, ou alors c'est le psychisme qui rend malade le corps, donc quand on est mal dans sa tête, on est mal dans son corps, donc on symptomatise. C'est très réducteur. La question que ça pose, c'est, voilà, premier mouvement, monisme ou dualisme, corps-psyché. Pour aller plus dans la complexité, je vais donc m'aborder au concept de psychosomatique, essayer de le décliner un petit peu pour voir les mouvances qui l'ont habité et les définitions qu'il a prises. Juste peut-être deux définitions avant de commencer, une distinction à faire entre ce que je vais appeler soma et ce que je vais appeler corps, ou ce qui s'appelle, ce que je vais appeler maintenant, mais qui est une distinction qui est reprise par bon nombre d'auteurs, voire la totalité. Du côté du soma, on est du côté des organes, on est du côté de l'organique et de la fonctionnalité, à penser qu'il y a des mouvements à l'intérieur du soma qui sont amenés ou concrétisés par des organes en mouvement qui eux-mêmes donc se remplissent, se vident à tous les niveaux. Ça peut être au niveau vasculaire, le cœur qui se remplit, qui se vide, qui fait avec des circulations dans le corps, ça peut être au niveau de l'ingérence d'aliments qui traverse le corps avec des mouvements pulsatiles qui font traverser la nourriture, qui la transforment, etc. Donc tout fonctionne comme un ensemble de mouvements organisés, suffisamment organisés quand tout va bien, et qui peuvent se désorganiser et former des dysrhythmies ou des dysfonctionnements qui se traduisent psychiquement par des douleurs, par exemple. Bon. Du côté du corps, on est plus dans une distinction où la psyché va s'approprier ces fonctionnements-là. Donc elle va former des constructions, des représentations, des images du corps qui vont créer une enveloppe. Alors d'abord des premières formes, les organes qui se meuvent vont donner des formes dont la psyché va se saisir, elle va essayer de le de se les représenter intérieurement, au niveau de ce qui va, ce que représente le squelette pour la psyché, donc ce qui est solide et qui tient l'organisme, et de tous les organes qui pulsent, donc des formes en mouvement, hein, et puis après envelopper dans un sac, le sac de la peau, quelque chose qui va faire unité. Et tout ça va essayer, la psyché va essayer de lier tout ça. Au niveau du visage, bon là c'est un exemple qui part d'un logiciel de formalisation, de construction de personnages pour des jeux ou des modélisations informatiques, pour montrer qu'il y a vraisemblablement quelque chose comme ça qui progresse lentement et qui fabrique progressivement cette image. Et dans certaines pathologies, notamment du côté de la psychose, on peut avoir des morceaux ou des organes, des morceaux du corps, de représentation du corps qui s'effondrent comme ça, qui disparaissent ou qui perdent une sensibilité. On ne va plus sentir son bras, le sujet va perdre une partie de sa vision, ou il va sentir des bouts de lui qui se décrochent. C'est vraiment des vécus, ça, que des patients peuvent avoir, hein. Ils se sentent partir en morceaux, se morceler, s'effondrer intérieurement. Voilà, il y a tous ces vécus qui sont une forme de démantèlement, hein, qui peuvent toucher l'image du corps. Pour donner une idée comme ça de ce que c'est que ce corps, à la différence du soma, on voit donc là sur l'image que donc les têtes des personnages sont réelles, hein, c'est des personnages réels, mais qui sont couverts par une couette, une couverture qui, elle, est une représentation. Notamment dans les rapports sexuels, pour qu'il y ait un rapport libidinalisé, érotisé, c'est grâce à ces constructions d'images du corps, de ce qu'elles représentent, comment elles rentrent en relation avec l'autre, comment elles peuvent se toucher, etc., à partir de toute la sensorialité et de la sensualité, ce corps-là est nécessaire, ces représentations sont nécessaires pour qu'il y ait cette relation. Autre exemple, donc ça c'est un patient qui a fait plusieurs auto-représentations, plusieurs dessins qui le représentent, et on voit comment ces dessins peuvent évoluer au cours du temps et comment il peut ne pas se voir de la même façon et s'auto-représenter comme ça psychiquement, sans miroir, sans rien, de façon diverse, hein, voilà, de façon plus ou moins morcelée, où il manque des parties de lui, pour montrer que c'est en construction, en déconstruction, on est tous plus ou moins à minima ou dans ces mouvements de soi à soi. Mais ça peut devenir pathologique quand on perd vraiment des parties de soi. Autre exemple assez frappant, voilà, par exemple, tout en haut à droite. C'est pareil, hein, c'est pareil. Donc en haut à droite, on voit que la bouche pour le sujet renvoie à ce dont parlait Mathieu Garraud la fois dernière, à savoir des représentations de l'oralité ou des choses, des sensations, des mouvements sensorimoteurs au niveau de la bouche et des représentations de choses ou d'images peuvent être envahissantes parce qu'il y a quelque chose tout le côté imaginaire et le côté intérieur, hein, de ce qu'on appelle les processus primaires, qui peut envahir le corps, le dépasser au-delà de son schéma. Voilà, bon là c'est une représentation de Picasso qui lui, de façon artistique, se ressaisit de ça pour modéliser quelque chose. Ces deux premières définitions pour vous situer un petit peu. Alors, la définition psychosomatique. Dans les premiers temps de la psychosomatique, on a pu englober au moins quatre formes différentes qui pourraient faire partie de la psychosomatique. La première, ce serait l'hystérie de conversion. Alors, je réexpliquerai ça plus tard, je reviendrai dessus, c'est juste pour vous donner une idée des différentes choses que ça peut englober. Du côté de l'hystérie de conversion, on a des symptômes qui impliquent le corps, mais qui touchent aux images du corps. C'est-à-dire que ce qui est impliqué, c'est le psychisme qui se ressaisit de ce symbolisme qui est projeté sur le corps, et la pathologie va toucher à ce symbolisme-là. Il n'y a pas d'étiologie. Dans la conversion hystérique, il n'y a pas d'étiologie pathologique, somatique avérée, effective. Le corps n'est pas, le soma, lui, n'est pas malade, n'est pas symptomatique. Une deuxième caractéristique, c'est ce qui s'appelle les pathomimies. Pathos de souffrance et mimie de mimétisme. Donc des pathologies qui touche à tout ce qui est la simulation, la mise en scène qui va tourner autour du corps, d'un organe, tout ce qui peut représenter psychiquement dans quoi il peut être pris, dans le contexte où il a été mis en mouvement, habité, et notamment on a des syndromes particuliers, par exemple la lasthénie de Ferjol, qui est un symptôme où des patientes ou des patients se provoquaient des saignements de nez notamment, de façon volontaire. Mais s'ils le faisaient, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans cette autoprovocation de ça qui prenait un sens, hein, qui prend un sens psychique. Troisième catégorie, du côté de l'hypocondrie. Alors, c'est à bien distinguer de ce qui est de la conversion et de cette mise en scène, parce que du côté de l'hypocondrie, en général, les sujets hypocondriaques se centrent sur une partie de leur corps, se cherchent un symptôme, mais ce qui fait la distinction, c'est que ce symptôme va être cherché du côté de quelque chose de morbide, hein, qui est de beaucoup plus morbide, qui touche au fait qu'ils pourraient en mourir, et ils vont consulter de façon assez compulsive tous les spécialistes possibles afin qu'on leur découvre ce qu'ils sentent intérieurement et qu'ils imaginent être une pathologie grave. Là, on vire beaucoup plus du côté de ce qui serait, c'est quelque chose de plus grave du côté de la psychose. Hein. Il y a des fonctionnements psychotiques sous-jacents, dans le sens où le sujet se sent déjà, à minima, envahi sensoriellement, somatiquement. Il sent des mouvements qui sont envahissants pour lui, qui l'angoissent énormément, et qui pourraient, s'ils ne sont pas jugulés, donner lieu à des délires ou des mouvements envahissants intérieurement ou beaucoup plus persécutoires. Donc là, on fait une distinction. Hein, ça touche beaucoup plus ce rapport de soi à soi qui est différent de la conversion. Et je reviendrai encore une fois tout à l'heure. Et en dernier lieu, on a les symptômes somatiques qui sont avérés, dont l'étiologie somatique existe vraiment. Le symptôme, dont je vais en décrire quelques-uns juste après, le symptôme existe, mais on imagine qu'il y a une part du psychisme qui participe à l'entretien ou à l'intensité du symptôme, par exemple la douleur. Hein, la douleur va augmenter en fonction de l'investissement psychique, et inversement, en traitant au niveau psychique, on va pouvoir faire diminuer, voire certains symptômes qui vont disparaître. Mais ces symptômes existent au niveau du soma. Quelqu'un qui s'appelle Franz Alexander, dans les années 30, qui était à Chicago, donc à l'école de Chicago, qui est fondateur de l'école de Chicago, a parlé de la maladie psychosomatiques et les a définies justement comme cette influence de facteurs psychologiques dans la genèse des pathologies somatiques. Alors il a, avec ses confrères et disciples, il a énuméré sept maladies dont ils estimaient qu'elles étaient psychosomatiques, donc repérées, ce qu'il a appelé le Chicago Seven, les sept maladies. Donc il y a l'ulcère gastro-duodénal, l'érectocolite hémorragique, l'asthme, les hypertensions artérielles, les polyarthrites rhumatoïdes, l'hyperthyroïdie et l'eczéma. Voilà. Ils ont dégagé dans ces symptômes somatiques quelque chose de contingent chez le sujet. Dans son psychisme, il y avait une forme de conflit particulier dont il disait qu'il ne se jouait pas au niveau psychique, qu'il ne pouvait pas se jouer au niveau psychique, et donc quelque chose qui se jouait au niveau somatique. Ensuite est arrivée la notion proposée par Dunbar, qui est le malade psychosomatique. Dans un premier temps, il a dit qu'il y a une personnalité spécifique au sujet, qui sont atteints de maladies psychosomatiques. Ça va être relativisé par la suite, parce qu'on se rend compte progressivement qu'il n'y a pas spécifiquement de sujet psychosomatique, de malade psychosomatique, il y a d'abord un sujet, hein, pas juste le malade psychosomatique, et puis que c'est plus complexe que ça, que tout sujet, malgré sa, ou au-delà de sa structuration psychique majeure, ou dominante, on va dire, peut somatiser. Ensuite vient l'idée de structure psychosomatique qui a été développée par l'IPSO, qui est donc l'école de Paris, l'Institut psychosomatique de Paris, avec donc comme fondateur Pierre Marty, Michel Demuzan, Christian David, Michel Fin et tous les continuateurs actuels. Donc c'est encore un mouvement qui a une grande ampleur, c'est un des mouvements majeurs en France. Donc il y avait l'idée qu'à côté des structures névrotiques, structures psychotiques, structures limites, d'état limite, donc aux franges de la psychose, mais jamais décompensées du côté psychotique, il y avait une structure psychosomatique de certains patients. Avec l'idée sous-jacente qu'il y avait un déficit au niveau psychique, une défaite du psychisme, c'est les termes de Marty. Quand ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher au niveau psychique, il y a une forme de régression, désorganisation qui s'inscrit dans le soma. Ça gagne les couches, ça gagne le soma. C'est un principe qui est un principe évolutionniste, donc qui part de Darwin, des théories jacksoniennes, et qui pense que donc la partie la plus brute, c'est du côté du soma, et qu'après ça se complexifie au niveau psychique, et qu'il y a toujours des représentations de plus en plus fines, des affects aussi qui se différencient. À partir du plaisir des plaisirs, il y a des choses qui vont se complexifier, s'assembler de façon très complexe, se mettre en images et puis se mettre en représentation de mots, et qui vont après se structurer dans le langage, ou dans une langue, dans un langage particulier. Une autre idée qui va venir après, qui est soulevée par Rosine Debray, c'est aussi que le symptôme psychosomatique est une possibilité de régulation dont l'individu va pouvoir se saisir. S'il n'arrive pas à se saisir de la résolution d'un conflit au niveau psychique, ni au niveau affectif, en faisant quelque chose, il ne peut pas, donc il ne va pas pouvoir, il va pas décompenser sur un mode psychotique où il va se mettre à délirer, il ne va pas avoir un conflit interne où il ne saura pas s'il est du côté d'assouvir ou de réaliser son désir ou de se l'interdire, s'il ne peut pas s'organiser dans ces symptômes-là psychiques, la solution, une des solutions, c'est de somatiser, et cette automatisation va pouvoir être reprise par le sujet, donc il va s'arrêter, par exemple, il va se mettre en se centrer sur son corps, etc. Donc il va traiter quelque chose par le corps. Donc il va pouvoir régresser et ensuite revenir, repsychiser quelque chose, à nouveau érotiser, libidinaliser, se réapproprier quelque chose du soma et reconstituer quelque chose du côté du corps psychique. Voilà. L'idée de consultation aussi psychosomatique est venue dans les années 60 du côté de l'IPSO. Alors les médecins, à la base ça a été fait par des médecins avec l'idée donc à l'hôpital de Bichat, il me semble à Paris Bichat, où Demuzan, Michel Fin et Pierre Marty qui sont médecins, ont dit: on va aborder le patient qui vient nous voir, un patient qui somatise, qui est malade somatiquement, on va l'aborder en l'écoutant différemment. Donc ces gens sont médecins et psychanalystes de la Société psychanalytique de Paris, de la SPP, qui est un grand mouvement en France. Donc ils ont dit, on va écouter le patient autrement, parce qu'il se passe quelque chose autour de son symptôme somatique. Alors, ils se démarquent en faisant ça, à la fois des médecins qui écoutaient sur un mode uniquement médical, et des psychanalystes qui écoutaient uniquement sur un mode psychanalytique, le sujet. Donc ils vont commencer à se situer entre les deux, ce qui ne va pas être une position facile dans un premier temps. Donc ils vont fonder ce qu'ils appellent l'investigation psychosomatique. C'est le titre aussi d'un livre de Pierre Marty qui date de 1963. L'investigation psychosomatique, cette vision théorique et cette écoute particulière qui va fonder cette consultation. Ces consultations, après, effectivement, vont être modélisées par d'autres théoriciens, praticiens, comme Sami Ali, par exemple, un mouvement qui est toujours actuel, Rosine Debray, Christophe Dejour, qui vont écouter les choses, qui vont se différencier par rapport à toute cette idée de la consultation. Et ils sont pas, après, ils ne sont pas tous médecins. Ils sont psychanalystes, mais pas tous médecins. Voilà pour ce point. La question qui vient à la suite de ça, c'est celle que je posais tout à l'heure et qui se pose et qui s'est posée la semaine dernière. On est du côté des visions monistes. Corps psyché, ça s'équivaut. L'âme, le corps, il y a quelque chose qui fonctionne ensemble. Fonction dualiste, séparation entre les deux. Donc, du côté moniste, on a des modèles qui sont partis, une pensée qui est partie de Spinoza, que Grodeck et Gouma ont pu reprendre aussi notamment. Du côté dualisme, on est du côté de Descartes. Et ensuite, alors, le modèle, je vais en venir à ma deuxième partie, comment est-ce que Freud s'est approprié cette question et comment il a pu la penser? Alors, dans le contexte où il était à l'époque, il a commencé par se départir du modèle moniste, pour revenir à un modèle dualiste, mais avec une singularité particulière. Il a commencé, entre 1892 et 1896, il y a un ensemble de textes, d'échanges qui ont eu lieu notamment avec Fliess, et où il se pose toutes ces questions, dans l'esquisse aussi, hein, l'esquisse d'une psychologie scientifique, où il va se dire, bon, on ne peut pas partir du côté de Grodeck, où tout est confondu, il faut un peu plus de détails. Donc il dit, non, on va commencer par un dualisme, il y a un dualisme psyché-soma, la psyché et le soma existent de façon distincte, séparée, et se touchent. Et là où il va aller plus dans cette direction-là, c'est-à-dire qu'à la fois, elles sont en contact, il y a un lien qui existe entre les deux, mais il y a une séparation. En partant du principe qu'en premier, il y aura quelque chose du côté du corps, du soma, donc il y a tous ces mouvements dont j'ai parlé tout à l'heure, la psyché en prend acte, en prend connaissance, et il faut qu'elle en fasse quelque chose. Donc du côté du somatique, il va parler d'excitation sexuelle somatique. Excitation somatique, parce que ça crée des excitations, tous ces mouvements. Il y a un mouvement qu'on peut appeler excitation, un mouvement sensorimoteur. Pourquoi sexuel? Parce que, je vous rappelle ce qu'on a dit la dernière fois, par rapport aux zones érogènes, c'est-à-dire que le corps est constitué de zones érogènes et que ces zones érogènes sont excitables et qu'il y a donc une sexualité qui va partir et se développer avec toute la diversité dont a parlé Mathieu, mais ça part de ça et ça va avoir un lien direct avec la façon dont le psychisme va s'approprier et prendre acte de ce qui se passe au niveau de ces zones érogènes dans le contact avec l'autre ou dans le contact du sujet à lui-même. Et comment à partir du moment où ça rentre dans le psychisme, on l'appelle différemment, il parle de pulsion sexuelle. Donc, l'énergie qui investit ces excitations, on l'appellera pulsion sexuelle. Donc, il y a bien deux systèmes distincts. Et après, à partir de cette pulsion, donc, d'autres choses vont émerger, mais ça se passe au niveau du psychisme. Le psychisme va en faire quelque chose, il va le représenter à la fois du côté des affects, des représentations, des représentants niveau affect, niveau représentation, en images et puis après en mots, et il va lier ces choses-là les unes aux autres. Alors, je vais juste vous lire une citation de Freud qui vient d'un texte de 1892 qui s'appelle « Contribution à la conception des aphasies ». Il dit ça. « La chaîne des processus physiologiques dans le système nerveux ne se trouve probablement pas dans un rapport de causalité avec les processus psychiques. Les processus physiologiques ne s'interrompent pas dès qu'on commençait les processus psychiques. Au contraire, la chaîne physiologique se poursuit, si ce n'est qu'à partir d'un certain moment, un phénomène psychique correspond à un ou plusieurs de ces chaînons. Le processus psychique est ainsi parallèle au processus physiologique. » Donc ça part bien de là, il y a des mouvements qui vont être distincts, qui vont être autonome dans les deux systèmes, mais il y a des points de conjonction. Hein, ça va fonctionner ensemble, de pair, et des fois ça va se disjoindre. Alors ça peut se disjoindre de façon non pathologique ou pathologique. Mais il y a bien une continuité, ça c'est le fil directeur de Freud, il y a toujours la continuité du sexuel, du soma, jusqu'aux parties les plus complexes du psychisme. Il ajoute à ça une chose importante, c'est que tout ça va se structurer autour de la mémoire. Sa conception de la mémoire est une conception diachronique, j'en avais déjà touché deux mots la dernière fois. Tout ce qui va se passer au niveau somatique, puis au niveau psychique, à ces différents niveaux, va s'inscrire, et toutes ces inscriptions vont avoir des liens entre elles, vont être remaniées en permanence dans une mémoire psycho-affective, Et tous ces remaniements vont faire que le sujet va se construire, des parties vont se déconstruire, régresser, fonctionner, mais toujours en évolution. Ça devient très pathologique. Alors, une partie n'est pas en évolution, parce qu'il faut une structure, et ça peut devenir pathologique quand ça dysfonctionne. Ça, c'est le premier mouvement, du soma vers la psyché. Deuxième mouvement, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la psyché va vouloir se réapproprier, elle a subi de façon passive, et elle va, le corps, le soma, et elle va se réapproprier le soma de façon active en formant une projection, dont j'ai donc le corps, c'est là que l'enveloppe corporelle, la subversion libidinale, ce qu'appellent certains auteurs, Christophe Dejour appelle ça, la subversion libidinale, l'érotisation du corps, donc la psyché va se réapproprier ce soma. Je n'ai pas retrouvé la citation, mais Freud parle de ça en ces termes. Il dit « Tout se passe comme si la psyché investissait en retour les voies nerveuses afférentes à l'endroit même où elle a pris connaissance du soma. » Alors ça, c'était pour illustrer l'école de Charcot à Paris pour les grandes hystériques. Là, c'est les personnages, donc Spinoza ici, maintenant, donc Spinoza... Descartes, Freud, et alors, pour illustrer un peu ça, j'ai fait un schéma qui rend compte de ce qui se passe. Donc, en rouge, vous avez le soma, avec les excitations sexuelles somatiques qui vont remonter. Il y a des points de jonction avec la psyché, où la psyché en prend connaissance, c'est les petites étoiles bleues, et naît la pulsion sexuelle. Et à partir de là, il va y avoir ce retour sur, non pas sur le soma, mais qui va constituer le corps érogène symbolique. Et l'hystérie de conversion, ou la conversion hystérique, va être ce mouvement qui se réapproprie le corps. Et donc, où le symptôme va concerner le corps et pas le soma. Le deuxième schéma que j'avais fait, c'était pour vous montrer comment, à partir du corps, les excitations remontent, il y a des traces sensorielles qui vont s'inscrire dans la psyché. La psyché prend connaissance du soma au niveau sensoriel, puis sensuel, va pouvoir construire des représentations de choses, c'est-à-dire des images autour de ça, qui sont en lien dans tout ce système associatif, et vont s'associer en dernier lieu les représentations de mots. Et tout ça circule, et tout ça communique ensemble. Donc, la psychosomatique, à partir de cette idée, est devenue une approche, des points de vue différents, une discipline spécifique. Et on va plus parler de situation psychosomatique. Alors, la différence avec la structure psychosomatique, c'est dans la situation psychosomatique, on va parler d'une contingence de facteurs qui sont là et qui sont à l'origine et qui accompagnent le symptôme tel qu'il apparaît chez le sujet. Alors, il y a des facteurs... Les facteurs favorisant ou participant à la somatisation vont être des facteurs médicaux, donc des sensibilités d'organes par exemple, qui font partie de la vie du soma du sujet, des fragilités particulières, des dysfonctionnements qui touchent au soma, des paramètres de l'environnement, les maladies, les germes, maintenant la génétique aussi, la question de la génétique qui vient s'insérer. La deuxième catégorie, ce serait les facteurs de personnalité psychologique, par rapport à la façon dont le sujet est structuré psychiquement, il va aussi avoir des plus de facilité à somatiser ou non, et le contexte aussi environnemental, c'est-à-dire les rapports qu'a eu le sujet à son environnement, aux autres, et notamment à ses premiers objets maternels, dans les temps très précoces de la vie, ou s'il y a eu des traumatismes, c'est ces traumatismes-là qui vont faciliter les somatisations. C'est des traumatismes très précoces qui sont en jeu. Donc l'intersubjectivité...
Oui, la sorte de schéma, le fait que ça soit en pointe et cette dénomination plus étroit, est-ce que ça veut dire qu'il y a un appauvrissement? Du cerveau?
Non, effectivement, quand j'ai repris ce schéma... C'était pas un appauvrissement, c'était pour noter plutôt ce vers quoi s'attend. C'est-à-dire de partir d'une base très large et très brute et qu'il y a quelque chose qui s'affine en quelque sorte. Mais c'est dans l'idée évolutionniste de tout à l'heure, ce qui est plus forcément le cas dans les théories actuelles. Je me disais qu'on aurait pu faire une double pyramide, par exemple, hein, deux pyramides inversées qui se chevauchent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas représenter comme ça. C'était peut-être une simplification. Donc l'intersubjectivité et le lien à l'autre dans l'actuel a une importance aussi fondamentale. Voilà. Des gens comme René Roussillon ou Christophe Dejour ont pu beaucoup développer ces choses-là. Et partir de ces actuellement partent de ces points-là aussi. Voilà, les deux idées supplémentaires, c'est qu'il y a donc une multifactorialité, une pluricausalité. Les choses ne sont pas simples, elles ne sont pas réduites. Il faut toujours appréhender les choses dans leur diversité. Et donc, il y a une pluridisciplinarité qui s'est instaurée aussi. C'est-à-dire que du coup, il va y avoir besoin de plusieurs regards différents, hein, médical, psychanalytique, psychologique, environnementaux. On va pouvoir prendre ça en compte à minima. C'est important. Et les prises en charge actuelles des patients sont aussi sur ces modalités-là, hein, où un sujet est pris en charge par une kyrielle de professionnels. Ça tend aussi de ce côté-là. Bon, je vois le temps qui s'écoule et je me dis que j'ai encore énormément à vous dire, donc on va essayer de faire... L'idée de la psychosomatique est partie de cette double distinction. Freud en parlait en ces termes, il disait, d'un côté, il y a les psychonévroses, ce qu'il appelle les psychonévroses de défense, c'est-à-dire du côté psychique, il y a quelque chose chez le patient qui se passe du côté psychique, et les névroses actuelles. Alors, il disait, quand on voit le symptôme, du côté, ce qui est très étonnant, c'est que du côté des psychonévroses, on repère chez le sujet qui s'exprime et qui parle de lui, on observe qu'il y a des traumatismes chez lui qui sont issus du passé et qui sont réactivés sous forme de réminiscence. Hein. Il disait, l'hystérique souffre de réminiscence. Ce passé-là va venir se réactualiser par rapport à une situation dans l'actuel. Et cette situation va rappeler ce passé qui va créer le symptôme. Donc il dit, voilà, il y a le monde psychique du patient, il est affecté, il a des représentations, il parle de lui, on sent un monde fantasmatique en lui. C'est une mémoire psychoaffective qui est là et qui vient jouer. Et donc le symptôme est lié à ça, il est contingent de ça. Et puis il dit, dans les névroses actuelles, bizarrement, ils ne trouvent pas ça. Ils trouvent plutôt un sujet où ils ne trouvent pas le côté régressif psychique, ils ne trouvent pas la vie infantile. Ils disent, bah, tiens, on n'entend pas le fantasme, on n'entend pas le... Il dit, le traumatisme est uniquement actuel. Alors, il va en parler pour les névroses de guerre, par exemple. Le modèle va être repris pour les pathologies somatiques ou dans des accidents. C'est-à-dire que le soma du psyché est directement atteint par quelque chose de l'environnement. Il y a un mouvement d'angoisse qui surgit directement de là et qui effracte la psyché. Donc il fait cette distinction. Certains patients, on peut les mettre de ce côté, c'est actuel, on ne voit pas d'où ça viendrait dans son passé, et puis d'autres, on voit bien que ça viendrait du passé. On verra que cette position-là a été dépassée par la suite. Alors, quand c'est du côté du passé, par exemple, il parle de la conversion. C'est là donc que il donne un exemple, on va partir de l'exemple d'Elisabeth von R, donc d'un cas d'hystérie de conversion. Le contexte, c'est une patiente qui est dans la maison paternelle. Elle est là avec sa sœur et le mari de sa sœur. Et alors sa sœur est gravement malade, elle souffre d'une maladie qui pourrait la faire mourir. Et elle a des liens, elle discute beaucoup avec son beau-frère, et il y a toute une sensualité, enfin il y a une relation, quelque chose de l'ordre d'une relation amoureuse qui s'établit avec ce beau-frère. Et alors, ce qui va se passer, c'est qu'il se promène souvent, et d'un coup, elle va développer une paralysie de la partie inférieure du corps, donc des jambes. Elle ne peut plus marcher. Mais il n'y a pas de somatisation, il n'y a rien. Les médecins regardent, il n'y a rien de tangible au niveau somatique. Et alors Freud l'explique par rapport à l'analyse qu'il fait de cette patiente, et avec cette patiente, il dit que le trouble est donc d'origine corporelle, puisqu'elle elle ne peut pas se déplacer, mais que c'est en rapport avec ses promenades. À la fois, elle est dans un rapport de désir par rapport à ce beau-frère, et en même temps, ça la place dans une culpabilité très importante, parce que c'est le mari de sa sœur. Donc, il y a un interdit qui vient, un interdit oedipien qui vient marquer ça, où elle ne peut pas prendre le mari de sa sœur. Et alors, du coup, il y a un conflit psychique qui naît en elle, entre son désir et la défense, mais elle peut renoncer à aucun des deux. Elle ne peut pas renoncer à aller faire des promenades avec lui, et en même temps, elle ne peut pas aller les faire parce que c'est trop sexualisé. Donc, du coup, le symptôme qui va apparaître ne perd aucune des deux parties. C'est une formation de compromis, c'est-à-dire qu'à la fois, ça l'empêche d'aller marcher, d'aller se promener avec ce beau-frère, et en même temps, l'actualisation permanente du symptôme fait que le fantasme est toujours présent. Ce symptôme rappelle en permanence qu'elle aimerait aller se promener. Voilà. Donc il y a ce conflit-là qui se pose. Donc on voit bien que là, on n'est pas dans une atteinte du soma, mais c'est bien le psychisme qui s'est ressaisi du corps et qui crée cette inhibition. Du côté des névroses actuelles, on n'est pas du tout là-dedans, hein, on est dans des troubles qui sont définis, alors je vais en citer quelques-uns rapidement, des états de fatigue, des céphalées, des douleurs, oui, des céphalées, hein, vous avez compris, des migraines, quoi. Des troubles fonctionnels, alors là du côté cardiaque, respiratoire, digestif, avec des accès d'angoisse qui n'ont pas d'objet dans la réalité, qui ne sont pas centrés sur un objet extérieur, qui sont ni une situation particulière, ou en tout cas qui n'ont pas l'air d'y être associés, qui n'apparaissent pas, enfin, si on ne comprend pas, il est pris d'angoisse. Et ça concerne voilà, la vie sexuelle actuelle et le comportement sexuel réel, qui réfère à la génitalité. Il n'y a pas de signification symbolique. Donc, les troubles psychosomatiques s'ancreraient davantage au départ de ce côté-là. Il y a des troubles qui ne sont pas symboliques. Il y a des troubles qui sont lésionnels, avérés sur le corps réel, qui ont un caractère grave, voire qui peut être assez morbide. Et il y a une nature dynamique pulsionnelle qui n'est pas, qui ne renvoie pas à la névrose infantile, qui ne renvoie pas à l'histoire que peut faire le sujet de lui-même, à l'histoire subjective du sujet, qui n'est pas du côté d'une érotisation, pas de conflictualité apparente au niveau psychique, donc on retrouve ça, mais des questions d'impasse, c'est-à-dire des situations qui seraient indépassables et qui sont pas, le conflit n'est pas intrapsychique. Et ce qui amène donc des désorganisations au niveau somatique. Il y aurait à ce niveau-là donc un démantèlement au niveau de la pulsion. La pulsion ne tient pas psychiquement, ne trouve pas de voie psychique, et donc à cet endroit-là, elle se démantèle et la décharge qui arrive se fait du côté somatique. Il y a un excès d'excitation, une forme de surchauffe somatique qui désorganise de façon globale quelque chose au niveau somatique et qui favorise le fait que les pathologies somatiques peuvent advenir. Alors du côté d'un modèle important que je vais reprendre, c'est celui de l'IPSO, c'est celui de Pierre Marty de l'école de l'IPSO de Paris, qui est un modèle économique, c'est-à-dire qu'il se fonde sur l'idée qu'il y a des flux d'énergie. Ces flux d'énergie ne pouvant pas advenir au niveau psychique, ils se rabattent, c'est ce que je viens de dire, sur le soma, et donc la pathologie somatique arrive. Donc ça dit une chose, ça dit que le symptôme est bête. C'est un déficit psychique qui provoque le symptôme somatique. Il y a quelque chose qui ne peut pas se concrétiser au niveau psychique, donc ça somatise. Mais le symptôme est bête dans le sens où il n'a pas de signification préalable. On ne peut pas dire, oui, ce symptôme représente ça, va de ce côté-là. Non, il est, par défaut, il advient parce que ça ne peut pas devenir autrement. C'est un modèle déficitaire. Parce qu'il y a une absence de fantasme, il y a une absence de conflictualité au niveau psychique, il y a quelque chose qui ne peut pas s'affecter psychiquement. Donc il y a une répression affective au niveau psychique et le symptôme arrive. Un des concepts importants est celui de défaut de mentalisation. C'est-à-dire que là où normalement, au niveau du préconscient, qui notamment est à l'origine des rêves, quelque chose doit se mettre en représentation, en affect, en mouvement, comme chez ces patients, ça ne peut pas advenir. Ils parlent d'un écrasement du préconscient. Et donc, comme ça ne peut pas advenir à ce niveau-là, voilà, il y a ce défaut-là de mentalisation, parce qu'ils constatent que les patients qui s'y somatisent à ce moment-là ne parlent pas. Très peu, ne parlent pas d'eux, ne parlent pas de leur histoire, ils sont dans des formes de sidération, de saisissement. Et il va noter un second point particulier qu'il va appeler dépression essentielle. Il dit le sujet n'angoisse pas, le sujet qui est en train de somatiser, il n'angoisse pas, il ne déprime pas, il n'a pas une dépression où il dirait qu'il pourrait se ressaisir de pourquoi il déprime intérieurement, il n'est pas triste, il est dans un état un peu blanchi, ce qu'il va appeler dépression essentielle, ou on appelle aussi dépression blanche, ou sans objet. Il y a quelque chose qui est stagnant, mais plutôt du côté déprimé, globalement. Et il a un rapport à son environnement qui va appeler une vie opératoire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, son rapport à son environnement est quelque chose d'ultra pragmatique. C'est-à-dire que c'est très, très, du côté très fonctionnel. Je pense que le mot opératoire rend bien cette notion que les choses ne sont pas prises dans ce qu'elles pourraient représenter, dans ce qu'elles pourraient faire fantasmer, du côté du désir, d'une envie, d'une réalisation de quelque chose. C'est un fonctionnement qui va aussi permettre d'évacuer. Ça peut être un fonctionnement aussi du côté très actif, très hyperactif, pour déverser l'excès d'excitation et qui va permettre de juguler cet excès-là. Et il va aussi définir comment est-ce que ça s'effondre du psychisme vers le soma. Alors, il va parler de désorganisation. Alors, d'abord, d'inorganisation. Il dit, chez certains sujets, on a l'impression d'une inorganisation psychique apparente. Donc, il somatise plus. Il va décrire des désorganisations progressives, c'est-à-dire des sujets qui vont progressivement... Le mouvement de somatisation n'a pas de fin. Par exemple, on trouve ça dans les syndromes de glissement. Quelque chose qui, d'un coup, ne tient plus psychiquement, le sujet se laisse aller et il se désorganise progressivement au niveau somatique. Il y a d'autres mouvements qui vont être arrêtés plus tôt, qui sont les mouvements de régression. Il va parler de régression globale ou de régression partielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le sujet régresse. Il y a une régression qui se fait dans sa capacité de s'affecter, de se représenter les choses. Mais ça va s'arrêter. C'est-à-dire qu'il va somatiser. Et la somatisation va pouvoir être réinvestie, jugulée, soignée. Et puis ça va repartir. C'est ce que je disais par rapport à Rosine Debray tout à l'heure. Ça va être une possibilité de se ressaisir de quelque chose et de le repsychiser, ou voire de simplement le psychiser. Alors, à partir de là, il faut bien penser que là, on serait du côté d'un patient somatisant, comment dire, qui serait que opératoire, qui serait que dans la dépression essentielle, qui serait dans cette espèce de froideur et de... d'asepsie, merci, excusez-moi. Cette espèce d'asepsie. Et que, certains sujets seraient que comme ça. Alors, ces modèles-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont être, modulés, et en partant de l'idée, dans les courants qui sont développés par la suite, on part de l'idée que tout sujet peut être à un moment donné réduit à quelque chose en lui. Quelque chose le ramène en lui à ces états-là, et que quand il somatise, systématiquement et de façon contingente, on observe ça. Cette dépression essentielle, ce mouvement où il y a ce mouvement psychique, avec ce fonctionnement davantage opératoire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'arrive plus à érotiser. Mais tout sujet peut, à des moments, rencontrer ça. Alors, les modèles qui le définissent plutôt bien, c'est le modèle, donc je vais parler de deux modèles, et puis après je vais vous donner des exemples cliniques qui vont peut-être vous parler aussi davantage. Il y a le modèle, un modèle qui est assez, qui est conjoint, qui est celui de Christophe de Jour, mais qui est conjoint à celui de René Roussillon, qui vont à peu près parler de la même chose, mais de façon un peu distincte. Mais ils parlent de la même chose. Alors, Christophe de Jour a théorisé ce qu'il appelle une troisième topique. Donc, ça, c'est une topique qui représente le psychisme, là. Il y a donc en haut le conscient, la partie consciente, une partie préconsciente, et toute la partie inconsciente. Il va dire qu'il y a plusieurs formes d'inconscient. Alors, on situe l'extériorité ou la réalité au-dessus, du côté de ce qui est, là où c'est écrit, la zone de sensibilité. À savoir qu'il y a le rapport à la réalité extérieure est à la fois, donc le sujet peut s'approprier la réalité extérieure pour l'internaliser, et en même temps il y a une zone de sensibilité qui lui permet ça, mais une zone suffisamment insensibilisée qui lui permet aussi de se protéger de l'extérieur. Christophe de Jour dit, voilà, il y a l'inconscient refoulé, l'inconscient freudien classique, c'est-à-dire qu'on a un monde interne qu'on n'a pas tout le temps à l'esprit, dont on n'est pas tout le temps conscient, mais qui nous traverse quand même. Hein. Si on avait imaginé qu'on ait tout le temps tout ce qu'on a intérieurement, toute notre mémoire à l'esprit, ce serait ingérable. Il y a quelque chose qui refoule. Et ce monde interne qui est fait de toutes ces représentations et de ces affects est refoulé. Et parfois, le refoulement peut sauter. Et c'est là qu'on peut... comment dire, qu'il y a des symptômes qui apparaissent. Et puis il y a un autre inconscient, alors ce qu'il appelle l'inconscient amincial, donc il parlait de partait de la mentalisation. L'inconscient amincial, ce serait un inconscient qui est fait d'une mémoire, de traces, et ces traces sont des traces qui sont apparues, qui se sont engrammées dans les moments les plus précoces de la vie d'un sujet, et qui sont des traces sensorimotrices. C'est-à-dire qu'elles sont directement en rapport avec ce que le sujet a perçu de son soma. Et à ces endroits-là, il y a eu des traumatismes précoces qui font que ces traces n'ont pas pu être, ou ces moments-là de la vie n'ont pas pu être habités par le sujet. Et donc, ils ont été mis de côté dans le psychisme. Ils ont été clivés. Le sujet s'en accommode, parfois sa vie durant. Ces traces-là ne font pas retour, elles sont gardées à distance. Alors, elles peuvent être gardées de côté, notamment par le fait qu'elles sont drainées par l'activité d'un sujet. Dans son activité à son environnement, la possibilité de décharger en permanence les excitations est liée directement à cette mémoire-là. Un sujet qui va beaucoup être en mouvement, ou qui va avoir des activités répétitives, etc., va pouvoir juguler sans cesse ces excitations qui sont liées à cette mémoire. Parce que les choses dans cette mémoire-là sont des traces, donc, comme j'ai dit, sensorielles et motrices, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore mises en image. La psyché ne s'est pas appropriée comme image, donc pas du côté de l'inconscient refoulé. Elles ont été mises de côté parce qu'elles étaient effractantes à ce moment-là, et elles sont toujours sous cette forme potentiellement effractante. Et à des moments, à un moment précis, ou dans la vie d'un sujet, il vit une situation particulière qui peut être traumatique pour lui, où cette mémoire-là va être réactivée et réémerger. Alors, quand elle réémerge, eh ben, ça fait quelque chose qui envahit la psyché, parce que ce n'est pas encore suffisamment psychisé et mis en image. Et donc, ça peut aller soit du côté du délire au niveau psychotique, ça peut envahir au niveau de représentations qui partent dans tous les sens, qui sont incompréhensibles, mais qui émergent comme ça au niveau psychique, qui se lient à d'autres représentations, sur des logiques complexes et envahissantes, ou alors, du côté, donc ce que j'ai dit juste avant, de la mise en mouvement, hein, juguler du côté de la mise en mouvement, de la mise en comportement, ou bien se somatiser. Alors, il y a un exemple dont parle Roussillon, René Roussillon. Il dit qu'à un moment donné, il y a la cure d'une patiente qu'il appelle Marine, et au cours de la cure, au bout de quelques années, la patiente d'un coup développe un ulcère à l'estomac. Et il arrive, elle, incompréhensible a priori, et dans ce qu'elle raconte, il entend ou il a entendu que dans les moments où cette patiente était toute bébé, sa mère lui avait donné à boire des biberons trop chauds, brûlants, et que dans sa relation à lui, il sent qu'il y a des choses aussi très brûlantes. Il sent que la patiente, quand il fait des interprétations, la patiente les prend comme quelque chose de très, très, très envahissant intérieurement. Et donc, il va lui faire une interprétation de ce côté-là, en faisant un lien entre cette histoire de la patiente, où les biberons avaient été trop brûlants, et le symptôme qui se réactualise à ce moment-là, au cours de la cure. Et la patiente va pouvoir se réapproprier ce symptôme somatique en reconstruisant le fait que dans sa relation à sa mère, il y avait quelque chose qui avait pu être envahissant, violent, brûlant. Et donc, du coup, elle se crée des représentations et elle s'affecte du côté de cette mère en se disant qu'elle avait pu la brûler. Mais du coup, cette brûlure qui avait été, cette trace de la brûlure qui avait été effective, va pouvoir prendre d'autres formes dans la psyché. Elle va pouvoir être réinvestie par le psychisme de façon hallucinatoire, reprise dans le mouvement psychique et être ressentie affectivement par la patiente comme « ma mère m'a intrusé et m'a brûlé de l'intérieur ». Voilà. Il y a quelque chose qui va se déployer comme ça de façon... l'ulcère va disparaître. On pourra reprendre si je n'ai pas été suffisamment clair sur ces notions après. Vu l'heure, je vais donner trois exemples qui me paraissent assez intéressants pour illustrer un petit peu tout ce que j'ai dit juste avant. Le premier exemple, c'est l'exemple d'une patiente que j'avais nommée Madame Tantal, qui est une patiente hospitalisée et qui avait une pneumopathie très grave. Elle avait été opérée en urgence par rapport à ça. Elle avait failli mourir. Et c'est une patiente qui, à la base, était rentrée pour une petite infection. Et après cette opération, elle est dans des états d'angoisse assez terribles où elle perd des facultés, progressivement des facultés de pouvoir notamment se lever. C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à bouger, à se déplacer, elle n'arrive plus à penser, elle n'arrive plus, personne ne comprend rien, et elle glisse progressivement, elle développe un eczéma sur les jambes, l'équipe soignante n'y comprend rien puisqu'elle était venue pour une petite infection. Ça prend une ampleur incroyable. Donc, du coup, à ce moment-là, ils avaient fait appel à mes services pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et j'ai suivi cette patiente pendant quelques mois. Et d'une situation où elle était allongée dans des mouvements d'angoisse terribles, à dire qu'elle allait mourir, que tout était fini, tout était perdu pour elle, alors même que le médecin me disait « Mais en fait, tout va bien, ça y est, sa pneumopathie va s'arranger, elle est hors de... Elle est hors de danger. » Or, elle ne pouvait plus se lever, elle avait des agitations dans les jambes, elle tremblait sur son lit, elle dormait plus, elle avait des comportements, elle soulevait son drap, elle me montrait son corps nu, mais de façon assez violente, dans une violence qu'elle vivait par rapport à son propre corps et qu'elle voulait me faire vivre aussi. Et en l'espace de 2 à 4 mois, je la voyais 2 fois par semaine, elle a pu progressivement... parler, se réapproprier. Alors, ce que j'ai vécu à ce moment-là était assez difficile parce qu'il a fallu que je puisse ressentir, c'est là où ça a pu marcher, ces angoisses de mort. Il a fallu qu'elle me les fasse ressentir et que je sois moi-même vraiment atteint par ça pour qu'il commence à se passer quelque chose et qu'elle sente que là, je pouvais l'entendre ou que je pouvais vivre quelque chose avec elle. Et progressivement, elle a pu remarcher et au bout de quelques mois, deux mois, je crois, elle était sortie. Elle est ressortie. L'eczéma a disparu, l'agitation, etc. Un autre exemple, c'est un exemple d'une dame dans un service psychiatrique, une dame âgée d'une soixantaine d'années, qui était considérée comme l'hystérique de service. Alors, ça peut paraître étonnant dans un hôpital psychiatrique, mais quand on a une patiente où on ne comprend plus rien, où l'équipe ne comprend plus ce qu'elle avait... elle était insaisissable, aucune solution ne satisfaisait, ça ne fonctionnait plus pour elle, et il n'y avait pas forcément de cause somatique non plus. Alors, je vais décrire les symptômes. c'est une patiente qui ne pouvait plus manger, ne pouvait plus rien avaler, ne pouvait plus parler, si ce n'est en certaines conditions. Ça maigrissait énormément, donc inquiétait énormément tout le monde. Elle avait des moments où elle était totalement immobilisée sur son lit, elle ne pouvait plus bouger. Et les seules choses qu'elle pouvait dire, alors de façon étonnante, c'est « je ne peux plus parler ». Et les seuls moments où elle pouvait parler, c'est quand elle pouvait dire « je ne peux plus parler ». Et les seuls moments où elle pouvait bouger, c'est quand elle disait « je ne peux plus bouger ». Et quand elle disait « je ne peux plus bouger », elle bougeait en même temps. Alors, ça rendait fou tout le monde, parce que du coup, on essayait de la lever, alors elle ne pouvait pas marcher. Alors, plus personne ne comprenait, et alors ils ont découvert aussi qu'elle se levait la nuit et qu'elle allait manger la nuit. Alors tout le monde disait, elle nous mène en bateau, elle fait exprès, elle se fout de nous. Et effectivement, je pense que cette patiente ne se moquait de personne, elle avait une problématique très importante du côté d'une conversion. Elle pouvait véritablement plus bouger quand elle était dans un rapport trop proximal avec les autres. J'imagine que quand elle était toute seule, elle pouvait tout à fait se mouvoir, mais quand j'étais là ou quand un soignant était là, on la voyait se raidir progressivement, et donc on était du côté d'une conversion. Le seul problème qui s'ajoutait à ça, c'est que finalement elle s'amaigrissait énormément. Et ça déclenchait des choses du côté somatique. Elle a fini par être mutée dans un service pour personnes âgées, non psychiatriques. Et finalement, chose assez dramatique, c'est qu'elle est décédée d'une déshydratation. Et on s'est aperçu aussi par la suite qu'elle avait des mycoses buccales. Donc là, c'est pour vous montrer comment on est bien du côté de la conversion à un moment, hystérique, mais pas que. Elle avait aussi des symptômes somatiques qui se sont surajoutés. À un moment donné, elle n'avait pas de mycose, après elle en a développé, les soignants sont passés à côté de quelque chose. Pour dire la complexité de ce qui peut se tramer, il y avait des symptômes, des choses du côté de la conversion, mais du côté somatique aussi. Et elle a fini par décéder de ces pathologies somatiques. Donc les modèles sont malléables. Il faut toujours faire attention à cette complexité du sujet. On pourrait très bien avoir un patient qui est somatisant, qui d'un coup développe des syndromes, quelque chose de plus conversif, quand il réapproprie son symptôme somatique. Donc là, il va se réapproprier son organe, il va en jouer, il pourra essayer de théâtraliser. Et ça, c'est plutôt un mouvement positif du côté de la guérison, du côté de cet investissement. Voilà, et dernier, peut-être un dernier exemple, ou peut-être je le donnerai plus tard, parce qu'il est déjà écart. Voilà pour la... En règle générale, bon...